Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Culture d'Islam, nous allons passer quelques instants de ponctuation musicale avec l'ordre des Mevlevi de Turquie, les derviches tourneurs, et puis nous discuterons également longuement avec Antoine Sfer. La flûte, le nez, la flûte est donc celle du maître Kutsi Örgüner, qu'on a déjà entendu dans Culture d'Islam. Le maqam, c'est-à-dire le mode musical, est le maqam Rast, qui a été composé par Itrig, un célèbre compositeur du XVIIe siècle, membre de la confrérie des Mevlevi, confrérie dont on parlera un peu plus tout à l'heure. Le nez est accompagné au chant, un chant grave et doux, calme et puissant à la fois, qui récite un nat, c'est-à-dire une louange au prophète Mohammed. Ô bien-aimé de Dieu, c'est toi le messager de l'unique Créateur. Tu es le plus haut de l'univers, tu es la lumière, tu es l'aimé de Dieu. Tu es la lumière des yeux de tous les prophètes et la lumière de nos yeux. La nuit de l'Ascension, Gabriel était ton guide. C'est toi qui as marché sur la coupole céleste, aux 9 étages. Dans Culture d'Islam, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Antoine Sfer. Antoine Sfer, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va prendre comme support de notre conversation votre livre « Brève histoire de l'islam à l'usage de tous ».
Oui.
C'était un livre déjà paru chez Bayard en 2012 et puis qui a été publié à nouveau chez Flammarion dans la collection « Chants, essais » en 2015. On va prendre ce livre comme support parce que, bien entendu, il y a tellement de choses à dire autour et au sujet de ce qui se passe du côté de l'islam aujourd'hui que, inévitablement, et notamment après les événements tragiques qui ont eu lieu ces derniers temps, eh bien, il sera question de l'actualité et surtout de son analyse.
Bien entendu, voilà. Parce que Si vous avez remarqué, on est trop attaché à l'immédiateté et on a oublié un peu de prendre du recul pour réfléchir, ensemble aussi surtout. Ce livre, je l'avais écrit parce que le gouvernement avait demandé aux hussards de la République, que sont les instits, les profs d'école, d'enseigner l'histoire de l'islam. Mmh. On les avait pas formés à cela. Je me suis enfermé, j'ai dit les choses, j'ai écrit les choses basiques. J'avais envie de prendre le lecteur par la main pour lui faire monter marche par marche l'escalier qui nous amène un peu au savoir.
Alors d'où le titre même du livre « Brève histoire de l'islam à l'usage de tous ». C'est une bonne introduction. Alors c'est une introduction, mais c'est une introduction qui est dense, qui est précise, qui est complète à l'histoire de l'islam. Et qui est justement, comme vous venez de le souligner tout de suite, d'utilité publique aujourd'hui. Hein, que non seulement du côté de professeurs démunis quand il s'agit de parler de l'islam, mais du côté même de l'opinion publique française, il y a autant de méconnaissances, voire d'incompréhension autour de l'islam.
Tout à fait. Et comme souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mmh. Alors on plonge dans une phobie de l'islam, l'islamophobie, parce qu'on se renferme sur soi et qu'on n'a plus envie d'aller vers l'autre, c'est tout.
Qu'est-ce que vous aviez envie de dire en particulier au sujet de l'islam, à ce public français pas forcément averti et dans une situation de tension et d'inquiétude au sujet de cet islam?
Tout d'abord que tout ce à quoi on assiste vient du petit banditisme ou des gens, à commencer d'ailleurs par le calife Baghdadi lui-même qui était en prison pour banditisme en Irak.
Donc le calife Baghdadi qui se prétend le calife de l'État qui se prétend lui-même islamique.
Exactement. J'ai vécu toute ma vie avec dans des pays musulmans et avec des musulmans, je n'ai pas l'impression. Alors, on essaie d'expliquer, bien entendu. Il y a des explications à leur attitude, mais c'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Aucun texte dans l'islam, que ce soit le Coran ou la Sunna du prophète ou d'autres exégèses ou des interprétateurs, n'ont jamais écrit qu'il fallait obliger par le sabre et l'épée et le reste de l'humanité à se soumettre à Dieu. Mmh.
Combien même le texte contiendrait...
Bien entendu, nous sommes au
7e siècle. Potentiellement violent,
oui,
reste la responsabilité de l'interprétation et de l'actualisation.
Bien entendu, vous l'avez dit vous-même, l'islam sans soumission. Je crois que beaucoup de gens auraient intérêt aussi à le lire, à lire votre ouvrage, dans la mesure où vous sortez de cette interprétation littéraliste basique de dire que aslama veut dire se soumettre sans libre arbitre et sans choix. Comment vous dire, on est à la fois dans un monde de méconnaissance et d'ignorance, ce qui fait que n'importe qui peut se prétendre n'importe quoi.
Et comment expliquez-vous justement que ce préjugé soit aussi enraciné dans les esprits que islam signifie soumission et que en dehors de la soumission, il n'y aurait point d'islam et point de salut?
Parce que n'oubliez pas qu'au moment où on a éradiqué toutes les écoles juridiques et théologiques qui gênaient, notamment l'école Hanbalite, celle qui prétend qu'après le prophète il n'y a plus rien de nouveau, on a éliminé les rationalistes, les Mu'tazilites, on a éliminé les Ash'arites également, qui avaient introduit la philosophie grecque dans non pas les critères, mais l'environnement de l'interprétation. Et à partir de là, on s'est retrouvé coupé un peu de toute évolution, surtout dans le sunnisme, dans la branche la plus importante, certes, de l'islam. Ce qu'on retrouve d'ailleurs, en revanche, on le retrouve chez les soufis et dans une partie du chiisme, et qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, continue à faire avancer les choses. Donc, comme dans l'Église catholique.
À essayer, en sous-main, de faire avancer les choses.
À essayer, en effet. Mais regardez, l'Église catholique, il a fallu Vatican II pour que ce soit la révolution au sein de l'Église.
Vous pensez que quelque chose comme un Vatican II, ou, toute limite de l'analogie mise à part, ou quelque chose comme la réforme protestante initiée au début du XVIe siècle par Luther, serait envisageable à moyen terme du côté de l'islam ? Et de quel côté dans l'islam ?
Elle n'est pas simplement envisageable, elle est réelle.
Elle est réelle.
Elle est rencontrée Ahmad Tayyib, qui est le recteur de l'université d'Al-Azhar, université de référence.
Mmh. S'il en est, bien sûr.
Qui est très, très réputée et reconnue. Ahmad Tayyib est le premier à travailler à cette réforme. Allez voir aujourd'hui ce qui se passe actuellement dans toutes les tariqs, les voix soufis qui sont devenues non plus mystiques mais sociétales, la Khalwati en Égypte, la Aoulawiya en France et en Algérie, celle du Cheikh Bentounes. Mmh. Le Cheikh Bentounes n'a pas attendu aujourd'hui pour le faire. Il a créé les scouts musulmans de France, qui sont la bête noire des islamistes et des salafistes dans nos cités. Il a créé la marche citoyenne de Cannes à Paris. Je crois qu'on est aveuglé. On est aveuglé. Regardez nos amis, les journalistes, quand ils nous interrogent, ils nous disent mais tu connais pas un islamiste barbu.
Est-ce que vous avez un islamiste à nous conseiller ?
Voilà, sous la main. Attendez, je sais que ça fait vendre. Je sais que ça fait vendre le papier et ça fait hausser l'audimat. Mais c'est de l'insouciance, c'est de l'irresponsabilité. Aujourd'hui, on a besoin de passerelles de savoir.
Bien voilà, sûr. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça ? J'imagine pas du bien de cette information en continu qui nous est déversée. Et qui nous est infligé, je dirais, dans les périodes de grande tension comme aujourd'hui.
On est trop informé et mal informé. Oui. On est trop informé dans la mesure où on nous donne les moindres détails sur la ceinture d'explosifs, sur le revolver trouvé, sur tel ou tel acteur ou personnage de la tragédie.
Et tout cela anesthésie la capacité de réfléchir, parce qu'on est continuellement emporté dans l'écume des jours.
Dans l'immédiateté.
Et dans une information qui en chasse une autre.
Dans l'immédiateté, donc on a plus ce recul nécessaire. Nous aussi, on a besoin de réfléchir.
Bien sûr.
Nous aussi, on a besoin de prendre la distance et non pas d'être noyé dans des informations qui sont certes importantes pour ceux qui doivent y répondre immédiatement. Mais nous ne sommes pas, nous, sur le terrain de la répression ou de la reconquête, etc. Nous sommes sur le terrain de la transmission du savoir. Et je crois que c'est ça le plus important.
Alors, justement, au sujet de cette transmission du savoir, alors Antoine Serre, pardon. Je ne vous ai pas présenté parce qu'on ne vous présente plus, mais donc je vais me faire un honneur de vous présenter.
Pas du tout.
Vous êtes journaliste et enseignant, vous dirigez les Cahiers de l'Orient, vous présidez le Centre d'études et de réflexion sur le Proche-Orient. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, j'en citerai deux tout à l'heure, dont les titres sont encore plus d'actualité aujourd'hui et j'espère qu'ils ne sont pas trop prémonitoires. L'Orient compliqué et l'islam contre l'islam. Donc des livres qui indiquent de ce côté-là de très grandes tensions. Alors vous dites l'important c'est la transmission du savoir. C'est ce que vous avez voulu faire dans ce livre, dont je rappelle le titre, qui nous sert un peu de support aujourd'hui, « Brève histoire de l'islam à l'usage de tous ». Un livre très utile, en particulier peut-être pour les professeurs.
Exactement.
Qui ont aujourd'hui quelque chose à dire, et je dirais en particulier lorsqu'ils entendent dans leur classe même s'affirmer un certain nombre de préjugés sur l'islam.
Et non seulement de préjugés, mais parfois d'impostures venant de ceux qui croient connaître l'islam. Des impostures inadmissibles aujourd'hui au XXIe siècle concernant... Vous savez, le voile, par exemple, il suffit de lire le Coran. On aurait mieux fait de l'offrir à chacun de nos députés au moment de légiférer. Ils n'auraient plus besoin de légiférer. Concernant le mariage, nous on dit n'importe quoi. Relisons ensemble le verset du mariage. Parmi les veuves et les orphelines, Dieu sait que ça réduit le champ. Tu peux prendre jusqu'à 4 épouses à condition de les traiter équitablement. Il ne s'agit pas de les traiter économiquement. Il s'agit de dormir avec chacune tous les soirs différentes et sans aucun jour de repos.
Alors, trop fatigant.
Des congénères mâles qui sont capables de le faire, j'aimerais vraiment leur serrer la main. Je serais honoré. Mais Dieu parle dans le Coran et il dit, et comme je sais que tu ne peux pas le faire, alors contente-toi d'une. Mmh. Alors, jamais on a vu une religion monothéiste aussi claire que cela. Commençons déjà.
C'est un excès de clarté. Ça me fait penser à cette phrase de Jean Jaurès qui dit « Vous me comprendriez mieux si je n'étais pas aussi clair ».
Oui. Hein, oui, tout à fait, voilà, peut-être. C'est très simple
de leur dire, aveugle.
C'est très simple de leur dire, tu as droit à quatre épouses, alors ils sont dans la corjoie.
Et oui, oui. Alors vous dites donc transmission du savoir, objectif de transmission du savoir, nécessité aujourd'hui de transmettre du savoir. Et vous dites dans ce livre que vous avez voulu être une passerelle.
N'oubliez pas que je viens de cet Orient compliqué.
Oui.
Et
qui était donc le titre d'un de vos livres.
Hein. Oui,
c'était en 2006.
De ce Proche-Orient, je viens. Et je viens d'un pays où il y a 18 communautés religieuses. Donc l'autre était naturellement en moi. J'habitais le quartier juif de Beyrouth, j'allais à l'école avec des catholiques, des grecs orthodoxes, des musulmans sunnites, des musulmans chiites. C'est vrai aussi, sur le plan de l'anecdote, j'ai eu la chance de draguer à 14 ans le vendredi à la mosquée, le samedi à la synagogue, le dimanche à l'église. Mais draguer m'obligeait à savoir à quoi croyait l'autre.
Et, oui, oui.
Et donc,
dans le livre, vous dites « apprendre l'autre ».
Oui,
apprendre l'autre,
se l'approprier comme le miroir qu'il est. C'est là ce que dit très très simplement et très justement Saint-Exupéry, l'autre, la différence m'enrichit. Et j'en sortais, et je sortais de l'église, de la synagogue et de la mosquée, l'autre n'était plus à l'étranger.
Et oui, alors justement, vous développez ce que signifie pour vous apprendre l'autre, c'est votre expression. Et je vais me permettre de lire un de vos passages qui pourrait être, et bon, je vous dis ça en tant que professeur de philosophie, hein, je sais ce que c'est que d'avoir une classe devant soi qu'on veut faire réfléchir sur ces questions. Je crois que ce passage que je vais lire pourrait être pour un professeur un bon exercice avec ses élèves, un bon exercice de discussion, hein, un bon support de débat dans la classe. Je vous lis. Apprendre, c'est avant tout connaître et savoir. C'est ensuite reconnaître pour respecter. C'est enfin accepter, non pas l'autre, mais le fait que nous ne sommes pas seuls et que nous ne constituons pas la référence culturelle universelle. Ce cheminement, cette initiation à l'autre, exige le même volontarisme de sa part. Et, concluez-vous, c'est ce qui rend le dialogue si difficile. Hein, voilà, bien poser les exigences éthiques.
Tout à fait.
Hein, et de l'apprentissage de l'autre.
Et je crois sincèrement que c'est la chance d'appartenir à deux cultures tellement mêlées, tellement brassées, tellement mixées au fil des siècles, qui me permet de décrire ce que vous venez de lire. Mais je crois que c'est important aussi parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'avoir a pris le pas sur l'être. Et je me demande dans quelle mesure, aujourd'hui, rappeler que les terroristes viennent du petit banditisme n'est pas précisément leur couper l'herbe sous le pied à prétendre parler de foi. Religion, n'en parlons pas. La religion, c'est une organisation temporelle d'une communauté.
Et d'ailleurs, dans le passage qui suit immédiatement celui que j'ai lu, vous dites votre scepticisme à l'égard de ce qu'on appelle habituellement le dialogue interreligieux.
Ah mais totalement. Hein? Attendez, comment pouvez-vous dialoguer sur le plan interreligieux quand vous êtes vous-même croyant et que vous voulez tout simplement convertir l'autre ? Il peut y avoir un dialogue culturel ou cultuel pour savoir comment ça se passe chez l'autre, mais interreligieux, on peut pas, on n'a pas le droit de jouer avec les mots comme ça. On peut baser le fait religieux, certes, mais le dialogue interreligieux est un dialogue avant tout interculturel. Donc, restons dans le dialogue interculturel, c'est déjà énorme.
Et le fond de votre scepticisme, c'est une question très lourde posée à la religion, qui s'exprime à travers une phrase, je vous cite, « Chacune des religions révélées croit intimement et fermement posséder la vérité. »
Oui, c'est ça qui est...
C'est-à-dire que, selon vous, une conscience croyante est... dans un cadre religieux, serait quasiment incapable de se défaire de cette conviction, de ce préjugé qu'elle détient la vérité, c'est-à-dire qu'il y a dans sa foi, telle qu'elle est formulée à travers les dogmes et les textes de sa religion, quelque chose qui serait supérieur à ce que recèle en matière de vérité.
Pas si on a la foi. Si on est religieux, on obéit à un pouvoir.
Là, vous faites donc une distinction entre être religieux et avoir la foi.
Oui, totalement. La foi est une démarche de l'intime, d'adhésion à une croyance. Donc cette croyance, vous croyez qu'elle est universelle. Donc si elle est universelle, automatiquement vous partagez la foi de l'autre qui croit peut-être à d'autres cultes, qui doit peut-être, peut-être à d'autres pouvoirs dans sa religion.
La foi comme donc un sentiment, une expérience intérieure qui ensuite va s'incarner, se traduire.
C'est Jamal Eddin Rumi dont vous venez de nous présenter quelques éléments.
On lira tout à fait à l'heure des vers de Jalal Eddin Rumi sur la musique qui accompagne les derviches.
Quand vous avez Ibn Arabi qui vous dit, il s'est assis à ma table et je l'ai haï parce qu'il ne partageait pas ma foi. Deux heures plus tard, il s'en est allé en emportant une partie de mon cœur. On est en plein dedans.
Mmh. On passe du religieux au spirituel ?
Oui, on passe du religieux au vrai spirituel, c'est-à-dire à quelque chose qui nous transcende, à quelque chose qui nous dit que cette foi-là que nous avons, que nous prétendions avoir, n'était qu'un rempart vis-à-vis de l'autre. Mmh. Alors que la foi peut et doit être partagé quand on a un seul but. Nous prétendons que le monothéisme, les trois ou quatre monothéismes avec les Zoroastriens, croient en un seul Dieu. Et ce Dieu-là, unique, précisément, lui-même est universel. Donc à partir du moment où nous avons cette prétention d'aller vers l'universel, on est obligé.
Alors deux questions par rapport à ça. Quel pont tendre entre le croyant, quel que soit donc son univers religieux, et l'athée. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une rencontre possible sur l'universel avec l'athée ?
Bien entendu.
Donc ça ne s'appellera même pas forcément Dieu,
non,
non, l'objet de, mais cette, c'est pas de le même ce
Dieu,
sentiment.
C'est, bien entendu, quand ni Dieu ni maître dit l'athée, mais c'est parfait, et ni Dieu ni maître, donc il y croit en la personne humaine, en l'être humain. Mais vous oubliez une chose, c'est que dans tous les monothéismes, il y a une parcelle de divinité, de déité en chacun de nous. C'est à nous de la faire ressortir. Mmh. Et Dieu sait que nous n'y arrivons pas souvent, d'ailleurs. Mmh. Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui vous a offensé, et que tout d'un coup, vous lui parlez comme si l'offense n'avait pas existé. On appelle ça le pardon parfois, mais peut-être aussi tout simplement le partage d'une foi.
Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui cette culture de l'intériorité est assez présente dans l'éducation spirituelle en islam ? Et comment est-ce que vous expliquez que, eh bien, autant de consciences croyantes et autant de mal avec la tolérance et avec la possibilité d'admettre qu'on puisse...
Ce mot-là, je le rejette, la tolérance.
Ah, vous rejetez le mot tolérance.
Oui, parce que revenez à son étymologie latine, tolero, c'est supporter.
Supporter, oui. C'est vrai que c'est tout à fait.
C'est accepter l'autre. Alors que je viens
accepter
de...
va plus loin que tolérer, infiniment, bien sûr.
Vous voulez dire que tout accepter, ce n'est pas l'autre, mais accepter que nous-mêmes, nous faisions le chemin. Donc, je ne crois pas à la tolérance, en tout cas, elle me choque. Tolérer quelqu'un, c'est déjà se mettre une marche au-dessus, au moins.
D'accord. Mais... Alors, est-ce qu'en islam, vous trouvez dans l'éducation, dans les éducations qui sont données, cette culture de l'acceptation ?
Non. Non, parce qu'aujourd'hui, on instrumentalise la religion. Aujourd'hui, on est en train de dire aux musulmans, tu es pauvre à cause de l'autre, tu es malade à cause de l'autre, tu as faim à cause de l'autre. Donc, on victimise le musulman. Mmh. Or, le musulman n'a pas besoin d'être victimisé, sous quelque horizon qu'il soit. Il peut être fier de l'islam des Lumières, même si ça n'a pas duré longtemps. Mmh. Il peut être fier de la maison de la sagesse à Bagdad, même si ça n'a pas duré longtemps. Ça a existé au moment où précisément la barbarie régnait partout en Occident. Il peut être fier du début du XXe siècle, quand Hanan Sharawi arrive à la gare d'Alexandrie et qu'elle enlève d'une manière certes théâtrale son voile en retour d'un séminaire sur la femme en Europe, devant tous les officiels. On peut être fier d'entendre encore rire Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, en Égypte, le puissant chef d'État égyptien qui intervenait dans tous les pays arabes. Eh bien, quand il nous dit, vous savez pourquoi je les ai mis en prison ? Parce qu'ils sont dangereux à propos des frères musulmans. Vous savez ce qu'ils voulaient faire ? Ils voulaient voiler nos femmes. Et on entend tout le monde éclater de rire. Regardez la régression qu'on a subie.
Ah oui, en effet, oui. Et alors, par rapport à cette régression, Antoine Sfer, vous qui êtes un homme... depuis de si nombreuses années de réflexion, mais aussi d'engagement et de combat. Qu'est-ce que vous éprouvez aujourd'hui ? Est-ce que c'est une forme de lassitude par rapport à cette régression, et puis par rapport non seulement à cette régression que vous observez du côté musulman, mais aussi par rapport à toutes ces incompréhensions qui perdurent au sujet de l'islam en France ? Qu'est-ce qui domine chez vous comme sentiment ?
Je dois dire qu'il y a des jours où la lassitude, ou du moins la tentation de la lassitude me prend, bien entendu. Mais sinon, je ne serais pas chez vous aujourd'hui si je n'y croyais pas. Je crois beaucoup qu'aujourd'hui, on a besoin de considérer tout d'abord les musulmans comme des citoyens. Et je ne supporte plus qu'on parle des musulmans de France ou des juifs de France. Ce sont des citoyens français, alors, de confession, qui les regardent. Ça ne nous regarde pas. C'est ça la laïcité. Mmh. C'est ça notre force avec la laïcité. Et c'est ce qui fait de la France aujourd'hui une cible prioritaire pour les terroristes. Parce que tant que nous sommes dans la laïcité, tant que nous empêchons nos propres gouvernants parfois de donner des coups de boutoir dans la laïcité, à la laïcité, eh bien, si nous la sauvegardons, cette laïcité qui n'a plus besoin d'être laïcarde ni laïciste, puisqu'il n'y a plus cette puissance, cette omnipotence de l'Église catholique en France, cette laïcité a le devoir d'être partagée, généreuse, ouverte. Eh bien, c'est cette laïcité qui nous englobe. Ce ne sont pas des religions. Malgré le fait que ça s'appelle religare et relié, les religions sont en train de délier totalement nos liens sociaux.
De délier nos liens sociaux et d'étouffer aussi beaucoup de croyants
mais
dans des
totalement.
Liens qui les ligotent totalement. Par des dogmes et des...
Regardez l'histoire de l'Église catholique, c'est un chapelet de massacre. Le sac de Jérusalem en 1091, c'est quoi le sac de Constantinople, l'Inquisition, et j'en passe.
Je voudrais qu'on insiste un peu sur ce que vous avez évoqué là en passant. Pourquoi la France ? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le terrorisme, alors sans s'en prendre seulement à la France, néanmoins, s'en est pris à la France de façon aussi violente, en janvier d'abord, en novembre ensuite. Vous trouvez, vous me l'avez dit avant l'émission, que selon vous, ça fait partie des analyses qu'on ne conduit pas assez.
Hein, et dans lesquelles on ne va pas jusqu'au bout. La France est avant tout une république. Et nous sommes tous des citoyens. Ça veut dire quoi, citoyen ? Ça veut dire responsable de la cité. La France m'a donné la clé de la cité et m'a fait, avec vous, des co-responsables de la cité. Et cette citoyenneté transcende mon appartenance identitaire, mon appartenance communautaire et mon appartenance régionale. Et à partir de là, elle me rend votre égale parce que nous sommes co-responsables. Et elle nous rend obligatoirement solidaire. Solidaire, s'il vous arrive quelque chose, je paierai de ma personne, de mon argent, de mon engagement, et parce que je veux que vous le fassiez vous-même, volontairement, bien entendu. On nous dit, vivez ensemble. Mais non, apprenez-nous à l'école à vouloir vivre ensemble. Il manque ce vouloir, cette démarche. Quand j'ai quelqu'un qui vient de n'importe où et qui me dit « je n'aime pas la France », mais il faut l'aider à se reconstruire ailleurs. Il faut l'aider, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, mais à partir du moment où on devient citoyen, c'est-à-dire qu'on est responsable de la cité, c'est ça la res publica. Et si on forme des citoyens, ça gêne ceux qui ne peuvent plus les instrumentaliser.
Bien sûr, mais il y a aussi, dans ce que vous dites, vous pointez du doigt également notre responsabilité.
C'est-à-dire,
est-ce qu'on forme nos enfants à vouloir vivre
ensemble et
à aimer l'univers de valeurs dans lequel nous vivons ?
Dans un couple, quand ça va mal, c'est la faute des deux. Soyons sérieuses. Aujourd'hui, on fait de l'éducation nationale, moi je veux bien. Refaisons de l'instruction publique. Et que les parents éduquent et ne se mêlent pas des études ou des programmes. Refaisons vraiment de l'instruction publique et laissons les parents éduquer. Que les maîtres instruisent. C'est tout. Rendons-leur leur autorité à nos maîtres, à nos hussards de la République. C'est eux qui sont importants. C'est eux qui vont fabriquer le savoir de nos enfants.
Alors, il y a deux autres thèmes sur lesquels, selon vous, les analyses actuelles autour de tout ce qui se passe et de tout le tragique auquel on a affaire ne sont pas assez poussées. D'abord, dites-vous, on ne nous explique pas la différence suffisamment entre Daesh et Al-Qaïda.
Entre les salafistes et les islamistes.
Voilà. C'est-à-dire on confond tout dans le isme.
Oui, parce que nous sommes précisément à la fois dans l'immédiateté.
Oui.
Et que des fois j'entends dire, mais c'est trop compliqué, comment tu... Mais même si c'est compliqué, quand on dit c'est trop compliqué, c'est déjà le début de la démission.
Bien sûr, et d'ailleurs dans votre livre, c'est pas compliqué du tout, c'est-à-dire que c'est justement la valeur de ce type d'introduction. Hein, dans votre brève histoire de l'islam à l'usage de tous, vous expliquez très clairement qu'il y a historiquement 5 grands courants d'un islam rigoriste, à partir des frères musulmans, du courant tunisien des frères musulmans.
Oui, dans les années 40, quand la Tunisie était sous protectorat français, les frères musulmans tunisiens ont ajouté l'Occident a droit à son islam.
Voilà, donc ensuite vous parlez des wahhabites, vous parlez du courant ottomaniste et puis enfin du tablir. Et puis vous expliquez les filiations avec justement ces courants aujourd'hui de Daesh et d'Al-Qaïda. Est-ce que vous pouvez donc nous préciser quelle est à la fois l'origine de l'un, l'origine de l'autre, et quelle est leur différence, justement, sein de cette nébuleuse un peu vague qu'on appelle l'islamisme?
Écoutez, dans les écoles juridiques et théologiques, on a dit que la quatrième, Ibn Hanbal, qui est le père spirituel de tout cela, a dit, après le prophète, il n'y a rien de nouveau. Donc, Ibn Taymiyyah, le théologien syrien du XIVe siècle, est venu nous dire, mais il a raison, mais comment faire sinon revenir au vrai, au pur, à l'originel, tel que pratiqué par les pieux anciens, c'est-à-dire les compagnons du prophète? Le vrai, c'est le salaf en arabe, d'où les salafistes et salafistes ne sont pas intéressés directement par le pouvoir, ils sont intéressés par les sociétés. Ils ignorent les frontières, puisqu'ils disent que toute la planète est appelée à devenir musulmane. Les islamistes, eux, veulent réislamiser le champ social, le champ politique, le champ économique, judiciaire, administratif, dans lequel ils vivent. Là, on est plutôt dans la prise du pouvoir, d'aucuns ont appelé l'islamisation par le haut, tandis que les salafistes, c'est l'islamisation par le bas. Mais tout cela est arrivé parce que l'Occident, dans les années 50, a choisi de s'allier stratégiquement, non pas avec les républicains Nasser, mais avec l'Arabie saoudite, c'est-à-dire ceux qui ont la lecture la plus littéraliste, la plus rigoriste, la plus archaïque du Coran et de l'islam.
Et encore aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a une incohérence dans notre relation avec l'Arabie saoudite. Vous êtes très sévère à cet égard.
Attendez, comment peut-on prétendre vouloir détruire les dictatures dans les régions, ce qui est un objectif extraordinairement heureux, en s'alliant avec des théocraties aussi destructrices et qui tuent leurs propres citoyens, ou leurs propres sujets, en tout cas, même aujourd'hui. Alors, on crucifie, on tue, on lapide, peut-être pas à coup de canon, mais en tout cas, c'est ce qu'ils font au Yémen, donc soyons sérieux. On n'est pas crédible de l'autre côté de la Méditerranée. Et voilà, ces incohérences-là, on n'arrive pas à les assumer.
Oui. Alors, il y a un autre thème que je souhaitais aborder avec vous. Vous revenez là d'une tournée dans un certain nombre de pays arabes. Vous allez nous en parler un peu parce que il est intéressant, justement, pour prendre un autre type de recul par rapport à notre actualité, de voir comment elle est perçue. Non seulement de l'autre côté de la Méditerranée, mais plus à l'est.
Oui.
Comment est-ce que les attentats subis par la France ont été perçus, et quel est je vais pas vous refaire le coup de la rue arabe, quel est l'état de l'opinion publique et des populations musulmanes?
Il y a une émotion, une émotion, mais en même temps il y a aussi des différenciations. Il y a ceux qui vous disent, écoutez, ça fait 10 ans qu'on leur dit attention, 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 et ils n'ont pas fait attention. Donc, il est normal aujourd'hui...
Attention à quoi?
Attention à ce terrorisme qui est en train de se développer, attention à cette fracture qui existe déjà en islam même, mais qui est en train de se développer même chez vous, en Europe et en France en particulier.
Et donc, l'Occident n'aurait pas entendu un certain nombre de mises en garde ou d'avertissements?
Totalement.
On aurait été autiste par rapport à la montée chez nous d'un islamisme radical.
Mais évidemment, regardez le nombre de gens qui travaillent là-dessus depuis même avant le début des années 80, qui nous mettaient en garde, parce qu'ils pourrissent la vie des musulmans, Parce que les premières victimes, on oublie que ce sont des musulmans avant tout. Et ça continue dans tous les pays. Ça ne veut pas dire qu'au nom de la répression, on peut tout faire. Bien entendu que non. Mais à côté de ça, il y a des choses qui doivent être faites. Aujourd'hui, on a fait éclater, et je dis, je pèse mes mots, le Proche-Orient et ailleurs dans le monde arabe. Aujourd'hui, nous avons nos propres responsabilités. Cette lame, cette alliance stratégique faite à la fin des années 50 s'est faite au moment où s'installaient les dictatures militaires dans cette région. Donc il n'y avait plus qu'un seul endroit où il y avait l'expression libre, c'était le lieu de culte. Et à partir de là, qui était pris déjà par les imams de la péninsule arabique, donc on avait un enseignement qui était calqué. On a fait un scandale il y a quelque temps, à juste titre d'ailleurs, sur les manuels scolaires palestiniens, qui ont été revus entièrement. Pourquoi ne fait-on pas la même chose dans la péninsule arabique? Pourquoi n'exigerons pas, nous, un droit de regard sur ce qu'ils sont en train d'enseigner? C'est affolant.
Bien sûr.
Ils sont en train d'enseigner le déni de l'autre.
Bien sûr. Et alors, au sujet de ce déni de l'autre et de l'importation de cette islam, de cet islamisme radical, est-ce que, enfin, il vous semble qu'avec ces attentats, malheureusement, nous avons pris la mesure de justement cette importation ici d'un islam radical?
Je l'espère.
Quand on voit toutes les mesures de sécurité, etc., on a l'impression qu'on a frappé très fort, mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que c'est ça, prendre vraiment la mesure de ce qui peut proliférer?
J'ai plus de questions que de réponses à votre question. Parce que j'espère qu'on a pris la mesure, en tout cas, et j'espère qu'on sait aujourd'hui que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre en tant que citoyens français, c'est-à-dire toute confession confondue, contre le même ennemi, celui qui, comme avant dans d'autres religions, aujourd'hui est en train de dévoyer l'islam. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes en guerre contre également une sorte de non... d'ignorance de l'autre, de non-connaissance de l'autre. Nous sommes en guerre aussi contre nous-mêmes. Nous avons pris la mesure assez de ces attentats, ou on va faire comme au lendemain de la tragédie de Charlie, c'est-à-dire qu'on va se remettre à faire les mêmes bêtises?
Qu'est-ce que c'est pour vous les mêmes bêtises?
Les mêmes bêtises, c'est qu'après avoir affirmé notre solidarité, on est retombé dans le règne de l'avoir, en oubliant d'être, c'est tout. Et on ne fait plus la différence entre l'important et l'essentiel, même au niveau gouvernemental, et on continue dans le même chemin. Vous savez, on finit par vous donner l'impression que vous êtes dans ce monde, parce que vous êtes obligé d'être dans ce monde, mais que vous n'êtes pas de ce monde.
Oui, oui, oui. Alors, par rapport à ça, il y a un travail inlassable qui doit nous permettre de prendre la mesure d'un certain nombre de problèmes. C'est le travail que vous conduisez dans le livre, c'est-à-dire un travail d'explication. Vous passez du temps à revenir sur des questions qu'on s'est beaucoup posées ces dernières années, mais qui restent d'actualité. Est-ce que l'islam est soluble dans la République ou la démocratie, par exemple?
Mais si vous avez une lecture littéraliste du Coran, non, bien entendu, puisque l'islam est englobant. Mais en revanche, les musulmans le sont totalement. La preuve, l'immense majorité des Français, des citoyens français de confession musulmane, qui ont embrassé la République totalement. Non seulement qu'ils l'ont embrassé, mais qui sont dans nos universités, dans nos laboratoires de recherche, qui sont en train de penser parfois pour nous certains problèmes philosophiques, sociologiques et d'autres. Bien entendu. Donc, réveillons-nous. C'est avec eux. Une main seule n'applaudit jamais.
Ah, c'est magnifique.
Et il faut être ensemble, c'est tout. Et à commencer par le gouvernement. Et je comprends, on ne peut pas leur demander de tout savoir.
Alors pour cela, il s'agit effectivement de faire en sorte que ne se développe pas du côté de l'islam une lecture trop littéraliste, parce qu'elle est problématique, cette lecture.
Elle est dangereuse.
Bien entendu. Non seulement, comme vous l'avez dit, elle est englobante, mais il y a un certain nombre de préjugés sur ce qu'est l'islam qui se sont cristallisés dans beaucoup de consciences. Par exemple, vous dites qu'il y a ce préjugé historique dans la conscience musulmane que le devoir, je vous cite, le devoir premier du musulman est d'étendre l'islam par la démographie et le prosélytisme. Et que, à partir de là, le musulman ne doit pas être gouverné par un autre musulman, ce qui fait gouverner la psyché islamique par le fantasme de la conquête.
Mais bien entendu, fait. Alors hein que le prophète lui-même nous dit « Obéissez à ceux qui vous dirigent ». Est-ce que c'est clair ? Je vous donne un autre exemple. Vous savez très bien qu'au début, il nous dit très clairement, il n'y a pas de le Coran nous dit, il n'y a pas de contrainte en religion. Il va plus loin, il nous dit, je vous ai créé plusieurs nations pour que vous puissiez vous parler. Et voilà que des gens viennent me dire, mais oui, mais il a dit aussi, ne fais pas du juif et du chrétien ton ami, combat-les, et si tu n'arrives pas à le combattre, décrète une trêve et demande à Dieu de le faire. Mmh. Je dis, mais attendez, on se calme, on relit cela, ce verset ensemble. C'était au moment où la Mecque, les Médine faisaient la guerre à la Mecque. Il parlait des chrétiens et des juifs à Médine, qui, dans la guerre, n'ont pas voulu s'en mêler, ou certains s'en sont mêlés, en prenant plutôt le parti de la Mecque. Donc, on est dans une sorte de situation conjoncturelle.
On ne peut pas imaginer un principe.
Voilà, on n'est pas un dogme qui concerne les chrétiens et les juifs du monde entier. Alors, bien entendu, ça arrange beaucoup de gens de le dire.
Alors, vous posez la question également, pourquoi avons-nous peur de l'islam ? Vous dites qu'il y a des fantasmes, hein, beaucoup de représentations subjectives. Il y a aussi, objectivement, hein, du côté de ce qu'on vient d'évoquer, des choses qui peuvent nourrir la peur ou l'inquiétude. Et puis, il y a une question que vous abordez en filigrane dans le livre et qui est tout le temps posée aujourd'hui. Je voudrais avoir votre avis plus explicite. On dit que toutes les questions autour de l'islam seraient des questions... Alors, certains disent que ce sont des questions politiques. D'autres disent non, ce sont des questions religieuses. Et comment est-ce qu'on peut se situer par rapport à ça ? C'est le fond de la question est politique ou le fond de la question est religieux ?
Si demain vous me dites je crois en Belzébuth, je ne vais pas chercher à vous convaincre du contraire. C'est votre foi. Ça vous regarde.
Mais je vous rassure, pour l'instant, ça va de ce côté-là.
Et ça ne me regarde pas. En revanche, si vous me dites « je vais t'obliger à croire en Belzébuth », là, ça commence à me déranger. Donc, à partir du moment où vous ne m'imposez pas votre foi, je suis tranquille.
Mais donc, le problème est bien à la jonction maudite entre le politique et le religieux.
Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est à la fois du religieux et pas du spirituel, oui, et de l'instrumentalisation du religieux en politique. Et c'est ça tout le problème. Regardez par exemple tout ce qui s'est passé au 19e, au 20e siècle. Le monde arabe a réclamé la liberté, il a réclamé la démocratie, il a réclamé également la fraternité puisqu'il voulait s'unir. Le nationalisme arabe est né de ces idées-là. Les comités de Paris et du Caire pour demander l'indépendance de tous ces pays auprès de Paris et de Londres, qui étaient les grandes puissances de l'époque, le prouve et le montre. Donc, quels que soient ces préjugés, ils ne tiennent pas une seconde face à une analyse tout simplement cartésienne, logique. Ce qui est important, c'est montrer... Je vous donne un exemple beaucoup plus frappant. Dans ce livre, il existe le pacte d'Omar.
Oui.
Je l'ai mis exprès, parce que c'est un pacte qui a existé 638. Bon, on ne va pas prendre le pacte d'Omar en disant ce que font les salafistes. Voilà ce qu'il faut suivre. Omar, étant le second successeur du prophète, se trouve à Jérusalem avec le patriarche Sophronius et qui lui fait visiter le Saint-Sépulcre. Et il lui dit, patriarche, excusez-moi, il faut que j'interrompe, c'est l'heure de ma prière. Et le patriarche lui dit, mais faites-la ici. Et Omar lui répond, malheureux, si je la fais ici, la plupart de mes soldats vont dire que le Saint-Sépulcre est devenu musulman. Laissez-moi partir loin en dehors de la ville que je la fasse. Ça, c'est du bon sens. Ça, c'est ce que j'appelle une réflexion de lumière. C'est tout.
Voilà des choses, encore une fois, qu'il faudrait enseigner, discuter dans les écoles, hein, de magnifiques exemples comme cela. qui vont beaucoup plus loin que ce que l'on critiquait tout à l'heure comme simplement la tolérance, hein, mais bien vraiment entendu. Une véritable acceptation de l'altérité. Vous avez mis, je crois, le doigt sur quelque chose d'important,
c'est
ce nœud de l'acceptation de l'altérité.
Oui, moi, je vous demande de me respecter dans mon altérité telle qu'en moi-même. Alors, ensuite, me reconnaître, c'est-à-dire reconnaître que je suis votre miroir comme vous êtes le mien. Mmh. Et une fois que vous m'avez reconnu, comment pouvez-vous prétendre me reconnaître si vous ne me connaissez pas ?
Alors, une dernière question. Dans l'état actuel de déstabilisation très inquiétant du Moyen-Orient, hein, jusqu'à la Libye, jusqu'à la Tunisie aujourd'hui, en se rapprochant d'ici, et puis dans cet état également très inquiétant où se trouve la société française, avec d'un côté la montée de beaucoup de replis communautaristes et de l'autre côté la montée de beaucoup de rejets complètement indifférenciés par rapport à tout ce qui de près ou de loin ressemble à de l'islam et des musulmans. Je vais vous demander un pronostic, pas une prédiction, une prévision. Comment est-ce que vous voyez à court et à moyen terme l'évolution de la situation, déjà ici en France, autour de l'islam, Antoine Sfère?
Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut démultiplier réellement les passerelles, c'est-à-dire les passerelles du savoir seulement. Oui. Je n'ai pas décidé ce que l'autre va penser, j'ai simplement à lui donner les outils pour qu'il pense. Et croyez-moi, il y a des gens formidables. Le dernier livre de Bernard Godard sur l'islam de France, mais c'est une bible, c'est quasiment... comment peut-on appréhender ce genre de problème aujourd'hui qui se pose autour précisément de l'islam sans avoir ce livre sous la main? Je vous jure, c'est rare d'avoir de tellement d'informations, tellement d'outils pour nous permettre à nous de nous faire une idée, premièrement. Deuxièmement, il faut absolument réfléchir. Quand on me dit les djihadistes, quand ils reviennent en France, on va les mettre en prison. Oui. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Comment faire pour en refaire des citoyens? Je pose la question. Je n'ai pas de réponse magique, mais je pense qu'il y a des cas.
Et avant même qu'ils s'aventurent dans le djihad, comment faire en sorte que
le
mécanisme ne s'enclenche pas?
C'est le troisièmement. Commençons à voir également que la loi n'est pas appliquée. C'est-à-dire qu'il y a des gosses de moins de 16 ans qui ne vont plus à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils ont démissionné les parents. Parce qu'ils ont, fui le maître. Mais alors là, il faut être très vigilant et en même temps intransigeant. On va à l'école jusqu'à 16 ans. Et si on est en échec scolaire, alors on est pris en main. Mmh. Et il y a tellement de gabegies que ça ne coûtera pas cher, hein. Et quatrièmement, enfin, prendre son bâton de pèlerin, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, en parlant de vous, de Raleigh Bencher, et de bien d'autres, de Malek Chebel et tout, c'est vous qui êtes légitime aujourd'hui, avec votre bâton de pèlerin, et allez parler pas seulement dans les médias, allez en France, allez dans des bourgs, allez dans des villages, dans des villes, on a besoin de vous aujourd'hui, parce que vous êtes légitime. Le prophète disait, ne l'oublie pas, seuls ceux qui possèdent le savoir ont le droit d'interpréter. Alors, zut, mettez-vous au travail.
Bon, on va continuer le travail. On s'est un petit peu mis au travail, on va continuer le travail en suivant, Antoine Sfère, votre bel exemple. Hein, votre bel exemple de réflexion, d'engagement et de pèlerin au service de la compréhension mutuelle, de l'acceptation mutuelle. Et puis de ce que vous avez appelé le spirituel, au-delà d'un religieux qui enferme.
Tout à fait, vous nous avez fait écouter.
Oui, et on va continuer.
La musique d'Aimé Vlévy, d'Aimé Vlévia. Personne ne dit que ce mouvement, cette tariqa, oui, soufie,
qui est né à Konya au XIIIe siècle, hein, et qui se renouvelle.
Au XIIe siècle, c'est extraordinaire. Oui. Et qui se renouvelle, à tel point qu'aujourd'hui, c'est une femme qui est le grand maître,
Cheikh Anour.
C'est Dénour, la lumière. Elle a pris un nom merveilleux. Et aujourd'hui, c'est des dizaines et des centaines d'écoles qu'elle dirige, pas seulement de la musique. Et je crois que c'est une preuve qu'à l'intérieur même de cette immense communauté musulmane dans le monde, il y a des changements qui se font.
Merci de tout cœur, Antoine Sfère.
Merci à vous.
Cette musique donne وقتی پیغمبر رسول بر
poète mystique Rumi, dans son Mesnevi, nous dit à propos du nez, la flûte que l'on écoute. Écoute le nez et sa plainte comme elle chante la séparation. On m'a coupé de la joncherie et dès lors ma lamentation fait gémir l'homme et la femme. J'appelle un cœur déchiré de la séparation pour lui révéler la douleur du désir. Tout être qui demeure loin de sa source aspire au temps où il sera uni. Feu et non vent, tel est le son du nez. Périsse qui n'a point cette flamme. Feu de l'amour dans le roseau, ardeur de l'amour dans le vin. Je viens de vous lire quelques extraits du début du Mesnevi, qui est l'œuvre majeure de Jalaleddin Rumi, ce grand poète mystique turc du XIIIe siècle. Alors, on parle toujours de Rumi quand on parle des soufis musulmans, mais sait-on qui est Rumi ? Il est né en 1207 à Balkh, en Afghanistan, et puis il a été chassé par l'avancée des Mongols. Il a été chassé du côté de la Turquie et il a erré pendant plusieurs années avec sa famille, donc en fuyant un certain nombre de massacres. Et toute sa vie, eh bien, pour le dire d'une formule un peu abrupte, il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu, c'est-à-dire qu'il a cherché ce terme de la quête spirituelle qui est constitué pour les soufis par l'union avec Dieu. Et au cours de cet itinéraire spirituel, tout change pour lui au moment où il rencontre Shams de Tabriz, qui est un derviche, c'est-à-dire un errant qui cherche la vérité, qui cherche la sagesse, qui apparaît comme cela dans la vie de Rumi. On ne sait pas d'où il vient, on a très peu d'informations, il y a une sorte de caractère miraculeux dans son apparition, et immédiatement, Rumi tombe véritablement amoureux, fou de Shams. Et pour Shams, il abandonne tout. Il va abandonner son métier d'enseignant. Il va abandonner sa famille, comme Jean-Jacques Rousseau. Hein. Il abandonne sa femme et ses enfants. Et il se lance dans une aventure. Alors je ne sais pas si, donc en quel sens ça a été une aventure amoureuse, mais en tout cas une aventure spirituelle et d'amitié spirituelle extraordinairement profonde avec Shams de Tabriz, jusqu'à ce que, parce que l'histoire est tragique, eh bien Shams soit jalousé par les élèves et par les disciples de Rumi, qui est déjà un maître spirituel réputé. Et après un certain nombre de vexations subies par Shams et infligées par les disciples, eh bien Shams disparaît mystérieusement. Est-ce qu'il a été tué ? À un moment donné, il réapparaît dans la vie de Rumi, et puis il disparaît à nouveau. Est-ce que cette fois-ci, les disciples de Rumi, trop jaloux, excédés par la proximité entre Shams et leur maître, lui ont réglé son compte ? On ne le sait pas. L'histoire ne le dit pas. On pense que peut-être, hélas, eh bien, l'amour de Rumi a été assassiné. Je vous parle de Rumi parce que lorsqu'on écoutait le nez tout à l'heure, vous avez entendu cette phrase extraordinaire, donc cette phrase de Rumi, qui est une des premières phrases du Mesnevi. Rumi dit « Tout être qui demeure loin de sa source aspire au temps où il sera uni ». Voilà la phrase que je propose à notre petite méditation du jour. Qu'est-ce que c'est que la source ? Qu'est-ce que c'est que ce symbole de la source ? Aujourd'hui, je vais me contenter, si vous voulez, de poser quelques questions. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer loin de sa source ? Qu'est-ce que ça veut dire que, étant près de sa source, nous serions unis ? Unis à quoi ? Bon, où est notre source ? Où sont nos sources ? Nos sources, ça peut être nos racines, tout ce qui nous a vu naître. Mais alors, le problème ne fait que se déplacer, et la question aussi. Pourquoi nos racines sont-elles si importantes ? Qu'est-ce que symbolise la racine pour l'être humain ? Et pourquoi l'homme aspire-t-il à faire retour vers ses racines, vers son origine ? Eh bien, peut-être parce que, mais je me contenterai de début de réponse, de piste offerte à votre réflexion personnelle, la source nous ressource. Les deux mots ont une assonance et une origine étymologique commune. La source nous ressource. Les racines nous ancrent dans le sol. Elles nous donnent notre stabilité, notre assise, dont on a besoin pour s'élancer en avant. Si on n'est pas ancré, si on n'est pas stabilisé par ses racines, on est déséquilibré au sens littéral. Et puis l'origine, que peut symboliser la source ? L'origine nous dit peut-être, pourquoi nous sommes nés ? Retrouver l'origine, ce serait ainsi retrouver le sens de notre venue au monde. Eh bien, justement, pour Rumi, Shams de Tabriz, dont on a parlé, lui est apparu sans doute comme celui qui pourrait le relier à sa source, le faire remonter en lui-même, l'aider à remonter en lui-même, ou à creuser en lui-même, on creuse jusqu'à trouver une source, l'aider à retrouver en lui-même, à remonter en lui-même, jusqu'à la source intérieure de la sagesse. Mais où trouver notre Shams de Tabriz ? Où trouver ce qui va relier chacun d'entre nous à sa source ? Eh bien, c'est à chacun de le chercher. C'était Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Aujourd'hui, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir Antoine Sfer pour son livre « Brève histoire de l'islam à l'usage de tous » et pas seulement, parce qu'on parle de tellement de choses grâce à Antoine Sfer. Vous retrouverez tous les livres, toutes les références de ces livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Je remercie aujourd'hui, pour la réalisation de cette émission, l'attaché de production de Culture d'Islam, Dominique Competissa. À la prise de son, je remercie Jason Taous. Et à la réalisation, Franck Lilin. Dans quelques instants, vous retrouverez Louise Touré pour La Rue des Écoles.